VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, un couvre-feu a été instauré dans la zone du Sahel, dans le nord du pays, où une attaque contre une mosquée à Salmoussi a récemment fait 16 morts. La mesure s'étend sur l'ensemble de la région du Sahel avec un couvre-feu de 45 jours allant du 21 octobre 2019 au 4 décembre 2019, a souligné le colonel Salfo Kabore, gouverneur de la région, dans un arrêté rendu public lundi. Dans un autre arrêté, le colonel Kabore a annoncé une restriction de la circulation des véhicules de type tricycle et à deux roues à grosse cylindrée dans les provinces du Soum, de l'Oudalan et du Sénou. Au Mali, où les attaques djihadistes et les conflits intercommunautaires font des victimes et des déplacés dans le centre du pays, les initiatives se multiplient pour apaiser la situation à Sévaré, localité proche de Mopti, le chef-lieu régional. Après la réunion d'urgence qui s'est tenue au gouvernorat, une délégation de la société civile s'est rendue lundi au siège de la mission onusienne, la MINUSMA, pour présenter à nouveau les excuses de la population de Mopti. Les détails avec notre correspondant sur place, Momodou Bokoum.
Après le saccage de l'entrepôt de l'AMINUSMA, des rencontres se multiplient. Ce face-à-face entre des membres de la société civile et l'AMINUSMA a un objectif clair, précise Mme Diallo Tata Touré, présidente de la coordination régionale des organisations de la société civile.
Venez vous exprimer toute notre compassion, vous témoigner notre affection et vous demander mille fois pardon. Parce que ce qui s'est passé, ça n'honore personne au Mali. Ça ne nous honore pas du tout. Ni dans notre région, ni dans notre pays, ça ne nous honore pas. C'est regrettable. Il faut que nous venions vous présenter les excuses au nom de toute la population de la région de Mopti pour ce qui s'est passé.
La chef de la mission onusienne à Mopti s'est dit très touchée et honorée par cette démarche mopticienne. Fatou Dieng Thiam.
Nous, ce que nous voulons dire, c'est que nous remercions d'abord les autorités, le gouverneur pour nous avoir accompagnés dans et la police locale, la gendarmerie qui a accompagné vraiment la MINUSMA pour mettre fin aux troubles que nous avions connus, mais aussi remercier leur démarche, parce que c'est une démarche très noble qui nous honore. Nous, on a reçu beaucoup de signes de compassion. Nous savons que c'est des agitateurs manipulés qui ont fait ce qu'ils ont fait, mais que Mopti est derrière la MINUSMA et la MINUSMA continuera d'être derrière Mopti pour les accompagner dans le cadre de son mandat.
Auparavant, une réunion d'urgence est convoquée par le gouverneur de la région. Le général Abdoulaye Cissé a saisi l'occasion pour annoncer des mesures prises le jour des événements.
À partir d'aujourd'hui, un couvre-feu est instauré à Sévaré. À partir de 18h, de 18h à 6h du matin, toute personne qui bouge doit se faire munir d'une pièce d'identité. Il faut qu'on sache finalement ce qui se passe à Sévaré. On ne peut pas comprendre qu'à chaque fois, pour des questions d'humeur, les gens sortent comme ça pour semer le désordre. Force doit laisser à la loi. Il y aura un couvre-feu. J'avertis les uns et les autres. Il faudra qu'on le sache que ça ne sera pas le laisser aller.
Dans la ville de Sévaré et Mopti, un calme précaire régnait ce lundi matin. La population a vaqué librement à ses occupations sans être inquiétée. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours. En Guinée, les manifestations contre le troisième mandat pour le président Alpha Condé qui ont paralysé la capitale Conakry lundi n'ont pas eu de suite aujourd'hui. Il y a retour au calme et selon l'AFP, au moins 4 jeunes manifestants ont été tués hier. Le gouvernement, pour sa part, fait état d'un gendarme abattu par balle dans la ville de Mamou, à l'est de Conakry, et d'un habitant tué dans la capitale dans des circonstances qui restent à élucider. L'ONU et l'ONG Amnesty International disent redouter une escalade. Un rappel des événements d'hier à Conakry avec notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
Le chef de file de l'opposition guinéenne s'est réjoui, selon ses propres mots, du succès de la manifestation. Celui d'Alain Diallo accuse les forces de l'ordre d'avoir fait usage d'armes à feu contre les manifestants. Le chef d'état-major général des armées a, dans un communiqué rendu public dans les médias, condamné le manque de civisme dans le comportement des citoyens qui se sont attaqués aux forces de défense et de sécurité. 3 PIA ont été vandalisés et brûlés à Conakry par les jeunes en colère. L'appel appel à manifester a été lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution, dont certains membres ont été interpellés samedi. Le FNDC, composé d'acteurs de la société civile et des partis politiques d'opposition, accuse le président Alpha Condé de vouloir, par un référendum constitutionnel, faire sauter le verrou qui limite le nombre de mandats. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Élection en Guinée-Bissau, la Cour suprême bissau-guinéenne a validé hier les dossiers de 12 candidats à la présidentielle prévue le 24 novembre. Un feu vert donné notamment au président sortant José Mario Vaz et aux représentants des principales forces politiques du pays. Idriss Fall.
José Mario Vaz, 62 ans, se présente en indépendant faute d'avoir obtenu l'investiture d'un parti. Il affrontera son ancien premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC qui l'avait limogé en août 2015 et a refusé de le nommer à nouveau à la tête du gouvernement après les législatives de mars. Un autre ancien premier ministre, Carlos Gomes Junior, se présente en indépendant. Il a été renversé en 2012 par un coup d'État avant le second tour d'une présidentielle dont il était donné largement vainqueur. Oumaru Sissoko Embalo, un autre ancien premier ministre, sera le porte-drapeau des frondeurs du PAIGC. Ils étaient 19 prétendants et 7 candidatures ont été recalées, dont celle de l'unique femme, la sociologue Nancy Schwartz. Ces recalés ont 48 heures pour déposer leur recours. Une délégation de la CDAO a insisté le 7 octobre à Bissau pour que le premier tour de la présidentielle se déroule le 24 novembre avec un éventuel second tour le 29 décembre.
Élection en Afrique toujours, en Tunisie, Kais Saied, proclamé lundi vainqueur de la présidentielle, peut être qualifié de novice en politique. C'est un spécialiste du droit qui prône une révolution dans le strict respect des lois et qui Abadou vous brosse son portrait.
Né le 22 février 1958 à Benikiar sur la côte est, Kais Saied a grandi à Rhadès dans la banlieue sud de Tunis. Diplômé en droit constitutionnel à 28 ans, il sera enseignant assistant à Sousse puis à la faculté des sciences juridiques de Tunis jusqu'à sa retraite l'année dernière. Père de 2 filles et 1 garçon, il est marié à une juge qui n'est apparue à ses côtés qu'au dernier jour de la campagne. Surnommé Robocop en raison de sa diction saccadée et de son visage impassible, ce néophyte en politique a percé dans les sondages avec le ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique traditionnelle. D'ailleurs, 90% des jeunes âgés de moins de 25 ans ont voté Kais Saied, considéré comme monsieur propre. Son QG est un appartement décrépit, meublé de chaises en plastique, dans le centre-ville. Son allure assurée et son éloquence savante l'avaient placé en bonne posture lors du face-à-face télévisé vendredi avec son rival Nabil Karoui.
Conflit en Syrie maintenant, le président américain Donald Trump a durci le ton lundi face à la Turquie, l'appelant à mettre fin à son invasion du nord de la Syrie et annonçant une série de sanctions contre Ankara. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les États-Unis veulent que la Turquie mette fin à l'invasion, mette en œuvre un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie, a indiqué le vice-président américain Mike Pence, qui a précisé qu'il se rendrait prochainement en Turquie à la demande de M. Trump. Lors d'un échange téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Trump s'est montré très ferme, a affirmé M. Pence, qui a assuré que le dirigeant turc s'était engagé à ce qu'il n'y ait aucune attaque contre la ville de Kobané. Lancée le 9 octobre, l'opération turque a ouvert un nouveau front dans le conflit en Syrie où interviennent acteurs régionaux et internationaux. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a souligné que l'offensive militaire turque avait entraîné la libération de nombreux détenus dangereux du groupe djihadiste État islamique. Cette incursion inacceptable a sapé la mission internationale anti-État islamique couronnée de succès en Syrie, a-t-il déploré. Cible d'une offensive turque meurtrière et abandonnée, disent-elles, par leur allié américain, les forces kurdes se sont tournées vers les troupes de Damas qui se sont rapprochées lundi de la frontière. Les sanctions américaines signées lundi par M. Trump visent les ministres turcs de l'énergie, de la défense et de l'intérieur. Leurs éventuelles avoirs aux États-Unis sont gelées et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.